affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Au cours de cette émission, comme dans toutes les autres d'ailleurs, nous allons bien entendu nous exprimer en français. Nous allons utiliser ces outils que sont les mots, les articuler, les manipuler pour tenter de donner du sens. Nous allons faire cela le plus naturellement du monde et espérons-le nous comprendre parce que nous allons recourir à une grammaire et à un vocabulaire qui nous sont communs et même familiers. Mais peut-être, de la sorte, allons-nous aussi recourir à des mécanismes et des concepts plus universels. Je ne l'affirme pas, car cette question est complexe et mérite débat et discussion, et c'est précisément ce que nous allons faire en compagnie de quelqu'un qui, lui, a des réponses à ces questions. Nous sommes heureux d'accueillir dans notre studio Robert Martin. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur émérite à la Sorbonne, linguiste et médiéviste, deux qualités d'ailleurs probablement nécessaires pour traiter cette question, car comme nous allons le découvrir, en traitant du langage, nous allons aussi devoir nous aventurer sur les terres de la philosophie, en nous interrogeant notamment, en réactualisant, en nous replongeant dans la querelle des universaux, dont on sait qu'elle était un des points d'orgue de la pensée médiévale. Ma première question va toutefois être plus précise, elle porte sur la méthode que vous avez utilisée. Si on s'interroge sur l'universalité du langage et la linguistique de l'universel, comme vous le faites, j'avais oublié de le préciser, dans un ouvrage récemment paru titré « Linguistique de l'universel » et publié par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui regroupe trois communications que vous avez faites sur ce sujet. Je voulais dire, la méthode que vous avez utilisée n'est pas la méthode empirique qui pourtant, un béotien comme je le suis, paraîtrait la plus évidente pour cerner ce problème de l'universalité du langage. Vous avez adopté une démarche théorisante. Pourquoi? Qu'apporte-t-elle? Quel était l'enjeu?
Vous avez parfaitement vu ce que j'ai voulu faire. Et effectivement, les universaux du langage, peut-être faut-il dire de quoi ils retournent avant même de parler de la méthode. Les universaux du langage, ce sont les traits communs à toutes les langues. On peut se demander s'ils existent. Mais, supposons que ce soit le cas, on peut les aborder effectivement par une méthode inductive, c'est-à-dire on peut observer les langues et on peut essayer de voir ce que les langues ont effectivement en commun. Cette méthode a l'inconvénient que... Elle s'appelle la méthode typologique, c'est-à-dire on essaie de rassembler les langues par type génétique ou par type systématique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas observer toutes les langues. Elles sont extrêmement nombreuses, certaines ne sont plus observables par l'accès à des locuteurs et qui les pratiquent, ce sont les langues mortes, des langues disparues donc, d'autres que l'on peut imaginer qui n'existent pas encore, pourquoi pas. Et par conséquent, on peut aussi, parallèlement à la méthode inductive, imaginer une méthode plus théorisante. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à se demander quels sont les principes et les propriétés communes à toutes les langues pour qu'elles puissent fonctionner. Et donc, on imagine des objets théoriques, c'est-à-dire des objets qui font l'objet d'une théorie, parce qu'ils ne sont pas directement observables. Il faut dire qu'une langue ne peut pas être observée. Elle ne peut être observée que par ses effets, par les phrases qu'elle produit, par les énoncés qu'elle permet, mais on ne peut pas observer directement le français ou l'anglais ou le chinois. Donc, de toute manière, la linguistique est peut-être descriptive. Elle décrit à ce moment-là ce que la langue produit, mais elle est forcément aussi théorisante, puisqu'elle porte sur un objet qui n'est pas directement accessible. Donc, c'est un choix qui a naturellement ses inconvénients, puisqu'il est entièrement, ce choix est entièrement théorique, mais qui est reconnu par l'ensemble des linguistes. Au fond, c'est une approche que l'on peut appeler de philosophie du langage plutôt que de linguistique descriptive et inductive. Donc voilà le point de départ. Ce n'est absolument pas nouveau, naturellement. De grands linguistes comme Hjelmseley, comme Kosseriou et beaucoup d'autres ont pratiqué cette approche, ce qui est peut-être un peu original dans ce que je peux faire timidement, c'est que je m'appuie dans une tradition de linguistique logique sur la logique formelle. Et j'essaie de voir quels peuvent être les apports d'une telle approche dans la filiation de très grands logiciens comme Frege, comme Russell, comme Intica, comme Kripke et beaucoup d'autres. Donc rien de vraiment nouveau dans tout cela, mais j'espère tout de même que ce que j'ai pu faire dans ce livre a finalement une certaine cohérence. Alors donc voilà pour la méthode que j'ai voulu suivre.
Dans cette méthode, si j'ai bien compris, vous a amené à observer que, à vous interroger sur trois concepts qui pourraient être communs à l'ensemble des langues humaines. Le premier, ce serait celui d'une logique commune. Qu'entendez-vous par cette logique ? Parce qu'on peut la définir, la cerner.
Oui. Alors c'est tout l'enjeu de la discipline, de cerner cette logique. Et se fonde sur une première distinction tout à fait importante, qui est celui de la forme et de la substance. C'est peut-être assez difficile à comprendre, mais des exemples très simples peuvent la faire toucher du doigt quand même.
Un peu l'essence même du langage, forme et substance, non ?
Ça
recouvre signifiant, signifié ou...
Pas tout à fait. Non, pas tout à fait, ce n'est pas...
Bon, alors je vous laisse développer.
Oui, non, forme et substance. On va peut-être prendre un exemple tout à fait simple. Réfléchir un instant sur l'idée d'instrument, l'idée instrumentale. Une phrase comme celle-ci, « Il retire le clou avec une pince ». L'idée instrumentale est qu'on utilise un outil, un moyen pour faire ce que l'on a à faire. C'est de l'ordre de la substance. Alors que si je m'interroge sur les moyens linguistiques qui sont mis en œuvre, avec une pince, j'utilise une préposition. Mais dans d'autres langues, j'utiliserai le cas instrumental, un cas grammatical. En indo-européen, il y avait 8 cas, il y avait un cas instrumental. Il n'a pas survécu en latin, il a été absorbé par l'ablatif. mais il a survécu dans les langues slaves, en particulier en polonais, il y a un cas instrumental. Que pour manifester l'idée d'instrument, on opte pour une préposition ou pour un cas, cela n'a aucune incidence sur la substance que l'on veut manifester. L'idée d'instrument n'est pas affectée par le choix entre une préposition et un cas. Ceci, le choix entre la préposition et le cas, est de pure forme linguistique. C'est interne à la langue, sans rapport aux données directes, aux données du monde. Donc le rapport aux données du monde, c'est la substance. Le fonctionnement interne de la langue, c'est la forme. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair et à peu
totalement
près compréhensible
clair.
C'est quelque chose qui, finalement, est facile à comprendre, mais qui est assez difficile à définir.
Et ensuite, il faut passer aux implications de cette,
oui,
de cette observation.
Absolument, absolument. C'est-à-dire, la différence entre la forme et la substance ne coïncide pas tout à fait avec la différence entre la grammaire et le lexique. Ce n'est pas tout à fait cela. On peut partir de l'idée que la grammaire d'une langue est entièrement de la nature de la forme. Entièrement. Mais le lexique, lui, tient à la fois de la substance et de la forme. C'est là aussi facile à comprendre si on veut bien prendre un exemple simple. Prenons l'exemple du substantif « chaise » en français. En tant que substantif, le substantif « chaise » appartient au lexique. En tant que substantif, il est le lieu d'une forme grammaticale qui appartient à la forme du français, à la grammaire, si vous en voulez, du français. En tant que substantif, il s'oppose aussi à tous les autres substantifs du français. Chaise s'oppose à tabouret, s'oppose à banc, s'oppose à fauteuil. Et cette opposition-là est de l'ordre de la substance. Elle renvoie au monde. Et donc, ce vocable de chaise est à la fois le lieu d'une forme et le lieu d'une substance. La même chose pour avec. Avec exprime l'idée d'instrument, mais c'est sa substance, mais c'est une préposition, et en tant que préposition, elle a en commun ce que possède toutes les prépositions. Ce serait assez difficile à définir, et je ne vais pas m'y risquer. Mais c'est la substance prépositionnelle. Donc le lexique est le lieu d'une substance et d'une forme, alors que la grammaire est peut-être exclusivement de la nature de la forme. Voilà.
Mais l'universel peut se loger à la fois dans l'un et dans l'autre.
Alors, en tout cas, l'universel se loge par excellence du côté de la forme. C'est là l'aspect peut-être le plus incontestable. Et si vous voulez, évoquons quelques universaux grammaticaux.
Volontiers.
Une opposition qui semble absolument universelle est celle de la prédication et de la modalisation. La prédication, tout énoncé, quel qu'il soit, quelle que soit la langue dans laquelle il se formule, dit quelque chose de quelque chose. Il ne peut pas y avoir d'énoncé sans prédication. Dire quelque chose de quelque chose. Et en même temps, chaque fois que nous disons quelque chose, nous prétendons dire quelque chose de vrai. C'est la modalisation. Tout énoncé linguistique est un énoncé modalisé. Alors, cette modalisation, nous pouvons la faire varier. Je peux dire que Pierre est rentré. Je peux dire aussi, je suppose que Pierre est rentré. Ou bien, il est possible que Pierre soit rentré. Il est certain que Pierre soit rentré. Mais je voudrais faire observer quelque chose de tout à fait banal. Si je dis qu'il est certain que Pierre est rentré, est-ce que c'est plus certain que si je ne dis rien du tout ? Je dis simplement Pierre est rentré. À votre avis, lequel est le plus certain ?
Pierre est rentré.
Eh bien voilà, nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire que spontanément, un énoncé énonce une vérité. Et si j'éprouve le besoin de dire que c'est certain, c'est que l'on pouvait en douter.
Il fallait dissiper un doute.
Voilà, exactement. Donc, la modalisation fondamentale du langage est celle de la certitude. Alors, certaines langues ont des éléments pour le signaler, par opposition à l'interrogation, par opposition à l'injonction. D'autres langues, comme c'est le cas en français, n'utilisent rien du tout et c'est la modalité par excellence est celle de l'affirmation, de l'assertion et donc de la certitude.
Vous voulez dire par défaut, c'est la certitude. Voilà. C'est comme ça.
Exactement.
Mais dans d'autres langues, ce n'est pas le cas.
Non. Non. Il peut y avoir la nécessité de marquer. Dans certaines langues, on marque même la provenance de l'information. Avec des éléments déterminés pour dire que c'est vrai parce que je l'ai vu, parce que je l'ai vécu, c'est vrai parce qu'on me l'a dit, c'est vrai parce que je l'ai lu. Tout cela peut être manifesté par des éléments distincts. Donc ce n'est pas du tout le cas dans la langue que nous-mêmes nous manions. Alors, si vous voulez, on peut parler un peu plus précisément des universaux de la prédication.
Volontiers.
Je veux bien parler de la modalité, hein, c'est une de mes spécialités. Mais parlons un instant des universaux de la prédication. Dans toutes les langues du monde, la prédication est soumise au principe de l'ordination, de l'ordre de prédication. Dans toutes les langues du monde, la prédication est soumise à ce qu'on peut appeler la valence de prédication. Je vais expliquer de quoi il s'agit, naturellement. La valence de prédication. Et dans toutes les langues du monde, les prédicats sont prédicativement orientés. Donc, ordre, valence et orientation de la prédication. Ce sont, à mes yeux, des universaux de la prédication. Alors, un mot sur l'ordre de prédication. Si je prends une phrase toute simple, le médecin vient de passer très rapidement. Vient de passer très rapidement, dit quelque chose du médecin. Mais le médecin, c'est aussi un prédicat. Il dit que l'être dont nous parlons a la qualité d'exercer la médecine. C'est-à-dire, dire le médecin, c'est dire quelque chose de celui dont on parle. Et par conséquent, dire que le médecin vient de passer, il vient de passer, dit quelque chose de ce qui est déjà un prédicat. C'est-à-dire, on appelle ça en logique, un prédicat du second ordre. Eh bien, les langues du monde, toutes les langues du monde, ont des moyens pour marquer l'ordre de la prédication. dans les langues indo-européennes, les langues et le français en particulier, cela est prévu dans le lexique lui-même par ce qu'on appelle les parties du discours, substantif, verbe, adjectif, adverbe. Le substantif dit quelque chose de lui-même, l'adjectif, le verbe disent quelque chose du substantif, l'adverbe dit quelque chose du verbe ou de l'adjectif. C'est un prédicat sur un prédicat. Mais dans d'autres langues, le lexique ne comporte pas de partie du discours. Il comporte des prédicats indifférenciés. Et c'est seulement quand on utilise un tel prédicat qu'il prend un ordre de discursif.
Voyez, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Là, ça ne va pas. Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux des langues qui, comme le tagalog. Le tagalog, je ne suis pas un spécialiste du tout du tagalog, mais j'arrive à comprendre à peu près de quoi il retourne, sans plus. Le tagalog est une langue austronésienne, c'est une langue parlée des Philippines, et cette langue a des... au niveau du lexique, des prédicats indifférenciés. C'est-à-dire, médecin signifie à la fois médecin et être médecin. Passage et passé, c'est le même élément du lexique. Mais quand on l'utilise dans une phrase, par des éléments grammaticaux, on sait de quoi il retourne. S'il faut comprendre que c'est à la façon d'un substantif que l'élément lexical est utilisé, ou à la façon, dans nos langues, d'un verbe ou d'un adverbe. Vous voyez donc, au niveau du lexique, les prédicats sont indifférenciés. C'est ça la très grande opposition entre des langues sans opposition verbo-nominale et les langues qui sont les plus nombreuses, à opposition verbo-nominale, cette opposition étant inscrite dans le lexique pour celles qui sont à opposition verbo-nominale et qui ne sont pas inscrites dans le lexique pour les autres. Voilà.
Donc les moyens sont différents, mais l'objectif est atteint de la même façon.
Absolument, absolument. C'est-à-dire l'idée... d'ordination, d'ordre de la prédication est universel. Voilà.
Sinon, le langage deviendrait presque sans objet, si je comprends bien. C'est vrai, s'il n'y avait pas ça.
C'est vrai que on ne voit pas très bien comment.
Ce serait un non-langage, non? Enfin, c'est pas, un peu une mise en abîme, cette question.
Peut-être. En tout cas, c'est une propriété des langues naturelles. On peut imaginer quand même des langages logiques qui soient sans ordre. Mais ce n'est pas le cas de la logique des prédicats. La logique des prédicats est fondamentalement une logique qui est sensible à l'ordre. Prédicat du premier ordre, du second ordre, du troisième ordre, et ainsi de suite. Donc, alors, j'ai parlé de l'ordination, des ordres de prédication, mais il y a aussi la valence prédicative. On n'imagine pas un prédicat linguistique qui ne prévoit pas le nombre de ses arguments. Je m'explique, c'est très facile à comprendre. Manger, quelqu'un mange quelque chose. Il y a manger et de l'ordre de la relation avec un premier argument, celui qui mange, et un deuxième argument, ce qui est mangé. Donner est un prédicat à trois arguments. Quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un. Premier argument, le sujet. Deuxième argument, l'objet. Et le troisième argument, l'objet second ou le datif, selon les langues. Avec une, là encore, une préposition ou bien un cas, c'est encore de l'ordre de la forme que nous disions tout à l'heure. Mais l'idée de valence est une idée universelle. Il ne peut pas en être autrement. Voilà. Et puis, l'orientation, les prédicats linguistiques sont tous des prédicats orientés. Pierre aime Marie ne dit pas la même chose que Marie aime Pierre. Donc l'ordre, l'orientation du prédicat va d'un sujet à un objet dans ce qui est une relation A, R, B. A, c'est le sujet universel, le point de départ de la relation. B, c'est l'objet universel, le lieu de la relation. Le lieu de la relation. Alors, certaines relations peuvent être symétriques. Enfin, tout cela peut être tout à fait complexe.
Et, oui, car Pierre et Marie peuvent s'aimer aussi.
Eh bien, tout à fait. Alors, c'est le verbe pronominal, bien entendu. Donc, tout cela peut devenir tout à fait complexe. Mais nous n'allons peut-être pas entrer dans les détails. Mais peut-être faire une observation sur les langues du monde. Un verbe transitif part d'un sujet et va vers un objet. Un verbe intransitif, Pierre d'or, n'a qu'un seul argument. Eh bien, la typologie des langues fait une très grande différence entre les langues dites accusatives et les langues dites ergatives. Effectivement, quand il n'y a plus qu'un seul argument, Pierre d'or, cet argument peut être traité comme un sujet, comme A, ou bien comme un lieu, comme B. Si c'est traité à la manière d'un sujet, c'est le cas en français, c'est le cas en latin, on utilise le nominatif dans ce cas. La langue est dite accusative parce que l'accusatif sert exclusivement à exprimer la notion d'accusatif. Dans d'autres langues, on choisit B. On choisit B, c'est-à-dire pour ce qui est de la propriété, pour ce qui est de la, du verbe intransitif, on opte pour le lieu de la relation. Et donc on fait là une différence entre deux grandes sortes de langues, les langues accusatives et les langues ergatives, mais il reste vrai que dans les deux cas, l'idée d'orientation du prédicat est une idée universelle. Donc vous voyez le raisonnement théorisant qui est sous-jacent à tout cela.
Alors, donc votre démarche a consisté à aller au-delà des moyens qui divergent pour essayer de retenir comme cœur l'objectif.
Tout à fait.
Et donc la nécessité même du langage, non ? C'est-à-dire que ça se confond un peu avec la nécessité même du langage, ce qui reste.
Ce qui reste. Ah ben, la nécessité du langage, oui, elle est universelle aussi. Vous avez pleinement raison, parce qu'il semble impossible de formuler aucune pensée élaborée sans un langage. Donc ceci aussi, et vous avez pleinement raison, est un universel.
Alors nous avons abordé la grammaire, On vous disait que là, il était probablement certain qu'elle est des universaux.
Oui.
Vous étiez moins affirmatif, mais peut-être était-ce une façon d'appâter l'auditeur, s'agissant de la sémantique.
Oui, du lexique.
Et du lexique.
Du lexique. Existe-t-il aussi des universaux lexicaux ? Alors, oui, il existe certainement des universaux formels du côté du lexique. Et la question est de savoir s'il existe des universaux de substance. Alors, parlons un peu très rapidement des deux aspects. Des universaux formels. Je vais simplement prendre un exemple, qui est celui de la polysémie, c'est-à-dire de la pluralité des sens qui s'attachent à un seul mot. Un mot comme bureau, c'est le lieu où nous sommes, un bureau. C'est la table sur laquelle on écrit. Cela peut être aussi les personnes qui travaillent dans un bureau, le bureau de l'Assemblée, c'est un ensemble de personnes. Il s'agit là d'un vocable qui a plusieurs sens, des sens qui sont reliés entre eux, naturellement, mais plusieurs sens, c'est ce qu'on appelle en linguistique donc la polysémie. La polysémie est un phénomène universel. C'est-à-dire, la polysémie, c'est un aspect formel, c'est indépendant de la substance qui est désignée. Et c'est un universel de forme du côté du lexique.
Donc dans toutes les langues du monde, il y a des polysémies.
Alors là, il n'y a aucune langue au monde
qui échappe à ce
qui échappe à cela. Aucune.
Ce qui leur donne toute leur saveur.
Et exactement.
Une langue sans polysémie serait quand même un peu triste, probablement.
Ah, mais c'est-à-dire, les langues ne pourraient pas fonctionner sans polysémie. La polysémie, dans des langues artificielles, vous voyez, un philosophe comme Leibniz a voulu créer un langage sans polysémie.
Pour qu'il soit plus précis, j'imagine.
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parce que c'est lié au fonctionnement même des langues. Les langues ont une souplesse extraordinaire pour passer d'un sens à un autre, pour étirer même le sens des mots, pour créer des sens nouveaux. Les langues sont prodigieuses à cet égard, et une langue purement mathématique ne peut pas effectivement fonctionner. Donc là, nous sommes du côté des formes. Si vous voulez, je passe un instant du côté des substances.
Oui.
Existe-t-il des substances universelles ?
Oui, c'est le point philosophiquement probablement le plus intéressant.
Peut-être. Alors peut-être allons-nous distinguer, pour clarifier les choses, deux sortes de substances, deux sortes de mots, si l'on veut. Deux sortes de concepts véhiculés par les langues. Des concepts, disons, naturels, et des concepts scientifiques et techniques. Si je prends un mot comme parallélogramme, bien, parallélogramme a une définition que l'on peut appeler conventionnelle. Les mathématiciens disent ce qu'ils veulent bien appeler parallélogramme. Ils utilisent des définitions de la forme « on appellera parallélogramme ceci ou cela ». C'est-à-dire l'idée de convention est indissociable d'un vocable de cette nature. On appelle parallélogramme un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et égaux. C'est là une définition qui, par sa nature, est forcément adaptée à l'universalité. Il suffit par convention que dans une langue, quelle qu'elle soit, on admette ou on ne l'admette pas.
En quelque sorte, l'objet se confond avec le mot.
Absolument, absolument. C'est, donc, le vocabulaire scientifique et technique prend une importance croissante dans toutes les langues du monde. Et en ce sens, les langues, de plus en plus, se ressemblent, dans la mesure où elles admettent des terminologies scientifiques et techniques. La question...
Dans un monde mondialisé ou globalisé, ou dans lequel il y a énormément d'échanges et de communications, bien entendu.
Alors, exactement, exactement. Les échanges sont de plus en plus... On n'imagine pas une science qui ne prétende pas à l'universalité. Alors, c'est le cas aussi de la linguistique. Nous pouvons en toucher un mot, si vous voulez, dans un instant. Et donc, c'est là... un domaine où l'universalité de substance est acquise.
Y en a-t-il d'autres ?
Alors, y a-t-il aussi, dans les concepts, disons, naturels, les concepts que les langues spontanément construisent, des substances universelles ? Il faut dire d'entrée que toutes les langues du monde, organise le pensable, c'est-à-dire la substance, de manière différente. Aucune langue ne ressemble à aucune autre pour ce qui est de la structuration de la substance. C'est ce qui fait aussi la très grande importance de toutes les langues du monde. Même un dialecte qui disparaît, c'est quelque chose qui est infiniment regrettable, parce que ce dialecte véhicule une certaine vision du monde qui lui est propre. Alors, par-delà cette diversité qui est naturellement liée à chaque langue, existe-t-il des universaux?
Et oui, c'était la question initiale.
De substance. C'est la question initiale. Alors, peut-être pouvons-nous dire quand même que l'humanité partage des expériences communes. Nous avons tous l'expérience de la mort. Et peut-être cette expérience universelle a-t-elle des traces comparables dans toutes les langues du monde. L'expérience du feu. Le feu, c'est est maîtrisé depuis quelques 400 000 années. Sans doute, les langues en gardent-elles une trace commune. Donc, il devrait exister dans presque toutes les langues du monde un élément qui exprime l'idée de feu, fire en allemand, fire en anglais, fuego en espagnol, fuoco en italien, ogon en russe, le signe japonais du feu translittéré par yi, infiniment vraisemblable, mais seulement vraisemblable, que quelque chose permet d'exprimer dans les langues ce concept de feu. Mais il faut tout de suite ajouter que c'est de l'ordre de la probabilité seulement. Il faudrait, là, nous revenons à ce que nous avons dit au départ, observer toutes les langues du monde pour dire que c'est effectivement le cas, mais c'est
il suffira
difficile.
D'une exception pour que ce ne soit plus universel, vous voulez dire.
Voilà, voilà. Eh bien oui, c'est imaginable, mais disons que la probabilité est du côté de l'universalité. Donc voilà, des universaux probables et des universaux donc, qui sont liés à l'expérience. L'expérience de la négation, elle est selon toute vraisemblance universelle, celle de l'absence, celle de la privation, celle du refus qui conduit à l'abstraction de la négation. Et il est vraisemblable que la négation a quelque chose d'universel. Donc voilà. Voilà pour les universaux, mais nous pouvons parler d'autres choses.
Oui, reste que une fois qu'on a défini ces mots, ils n'ont pas nécessairement, et on imagine, la même charge culturelle, affective, spirituelle dans chacune des langues. C'est-à-dire,
tout à fait.
Et est-ce que cette idée, est-ce que lorsqu'on arrive à identifier avec probabilité un mot est considéré qu'il est universel, est-ce que pour autant est-ce qu'on ne l'a pas tellement dépouillé de sa chair pour en garder l'universalité qu'il en reste finalement assez peu de choses ?
Peu de choses, mais tout à fait, tout à fait. Et je vais aussi consacrer un chapitre à la notion de langue universelle. Et ça ferait une excellente une transition, si vous voulez, pour que...
C'est ce que je souhaitais.
Ah, mais parfait, mais parfait.
Si on pouvait dire un petit peu de mal de l'espéranto, du volapük et des projets fous de Leibniz, j'en serais ravi.
Oui, vous savez, Leibniz a renoncé. C'était un péché de jeunesse. C'était sa thèse. Il était jeune et il pensait, il y a renoncé.
Et cette époque pensait un peu comme cela aussi, non ? C'est un défaut de l'époque, non ?
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la langue universelle, on peut essayer de définir la notion de langue universelle, on peut essayer de la définir même en termes de logique. L'approche spontanée est une approche extensionnelle, au sens tout à fait courant de la logique, c'est-à-dire... Une langue est universelle si elle est partout en usage. C'est l'extension.
Et c'est de l'ordre du constat. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait. Si elle est partout en usage. C'était l'idée qui était sous-jacente à la question posée en 1784 par l'Académie de Berlin à propos de la langue française. L'Académie mettait au concours la question suivante. Qu'est-ce qui a fait de la langue française la langue universelle de l'Europe ?
On peut d'ailleurs s'arrêter sur la question. La langue universelle de l'Europe.
De l'Europe, ce qui est bizarre hein, quand même. Hein. Mais bien entendu.
Ça réduit la prétention à l'universalité d'emblée dans la question posée.
Oui, il y a une restriction qui est...
Qui est de taille quand même.
Qui est de taille. Tout à fait, tout à fait. La langue universelle de l'Europe. Il y a eu, on ne le rappelle pas toujours, deux lauréats. L'un très connu.
En France en tout cas.
En France en particulier, c'est Rivarol. L'autre méconnu, mais injustement méconnu, c'est Johann Christoph Schwab, qui est professeur de philosophie à l'université de Stuttgart et qui a écrit son mémoire en allemand. Qui aurait pu l'écrire en français ? Il était un excellent connaisseur de la France et du français. Et il est moins brillant que Rivarol. C'est une certitude, mais d'une profondeur de pensée peut-être supérieur. Et en particulier, lui a tout de suite posé la question en termes extensionnels, en disant, la première partie de son mémoire s'intitule « Développement des causes principales de la propagation d'une langue. Propagation, c'est extensionnel. Bon. On peut aborder la question aussi en termes non pas extensionnels, mais intentionnels, c'est-à-dire en termes de propriété. Et c'est l'approche que j'ai proposée dans mon petit exposé là, sur la notion de langue universelle. Une langue a plusieurs fonctions. Une fonction de communication, c'est l'évidence, mais aussi une fonction cognitive, c'est-à-dire d'organisation de la pensée. Cette fonction est tout à fait fondamentale, et c'est là que nous revenons à ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. Une langue est faite pour organiser le pensable. Chaque langue le fait à sa façon. Et quand on utilise exclusivement l'extensionnalité pour approcher l'universalité d'une langue, on favorise de manière tout à fait injustifiée l'approche communicative.
Qui est un des traits de notre époque, quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on voudra quelque chose de pratique et qui permette à chacun de communiquer à la surface globale, car tout ça est relié quand même à l'esprit de notre temps.
Mais c'est une exigence qui s'impose.
Et plus dans la fluidité que dans l'approfondissement, je veux dire.
Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une exigence qui s'impose. L'anglais a pris le premier rang parmi les langues du monde pour ce qui est de la communication internationale. Et l'apprentissage de l'anglais est actuellement une nécessité. Il faut bien que à l'école, les enfants apprennent l'anglais. Mais c'est surtout au titre d'une langue de communication.
Une langue utilitaire.
Voilà. Une langue utilitaire. Une langue utilitaire. Ce qui n'enlève absolument rien aux autres grandes langues de culture dans leur vision du monde, dans leur approche du monde, qui est absolument originale pour chacune d'elles et irremplaçable en tant que tel. Et c'est une immense valeur de la communauté européenne que celle du plurilinguisme. Même si nous nous exprimons en anglais pour communiquer, nous continuons à utiliser une très grande langue de culture pour creuser notre pensée et pour nous exprimer d'une manière originale par rapport à toutes les autres langues du monde. Alors, il me semble que notre préoccupation maintenant est de favoriser cet aspect culturel de notre langue.
Je crois que vous établissez une distinction entre l'universalisation de l'anglais par extension comme outil pour communiquer entre tous les peuples du monde. Pas de problème. Mais si elle tente à être une généralisation et à se substituer ou à appauvrir les autres, évidemment, c'est une catastrophe.
Là, ce serait une catastrophe.
Voilà, pour l'ensemble pour le patrimoine commun de l'humanité.
Exactement, exactement. L'anglais est naturellement une très grande langue de culture, mais il ne faudrait pas que ce soit une culture universelle. Ceci serait extrêmement dommageable. Donc, il faut se battre sur ce plan, sur le maintien. Et ceci, notre ami Schwab l'avait déjà vu et je le manifeste, mais je ne sais plus la page, alors tant pis, hein, je ne vais pas le retrouver peut-être, la notion de langue universelle. Attendez, peut-être...
Cherche aussi, monsieur.
Schwab était constant, voilà, je l'ai retrouvé, c'était la page 79. Les liaisons étendues qui se sont formées de tous côtés entre les Européens, écrit-il, leur rendent un instrument universel de communication absolument nécessaire. Cependant, tout en plaidant pour le français, il ajoute, mais que chaque nation travaille en même temps à perfectionner sa langue naturelle, qu'elle veille sur sa conservation, car avec toute l'estime que j'ai pour la langue française, ça c'était au XVIIIe siècle, je suis bien éloigné de souhaiter qu'elle occupe seule la place de toutes les langues de l'Europe. C'est un esprit très lucide que Schwab. Eh bien, nous disons aujourd'hui la même chose à propos de l'anglais. Voilà.
Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie et je vois dans cette citation et dans vos derniers propos le signe très encourageant que lorsque l'on se penche sur une linguistique de l'universel, on en vienne par terminer en faisant une apologie des particularismes et de la différence et de la richesse singulière de chacun des langages humains. Est-ce que cette idée vous convient comme conclusion et comme appel à cultiver cette richesse ?
Ah, tout à fait. Alors je vous rejoins pleinement et je vous remercie de cette belle conclusion.
C'est moi qui vous remercie. Et pour poursuivre sur cet élan, je ne peux qu'appeler nos auditeurs, leur enjoindre à se plonger dans votre ouvrage, qui est certes dense et ardu par certains aspects, mais également réjouissant. Et un exercice très fécond, car par le jeu, néanmoins, même si c'est théorisant, des comparaisons et des exemples que vous donnez, ce sont autant de contrepoints qui nous permettent de juger de notre propre pensée et de la développer et de comprendre à quel point, effectivement, à nouveau, l'universel peut s'atteindre par le particulier. Les références de l'ouvrage sont donc « Linguistique de l'universel, réflexion sur les universaux du langage, les concepts universels et la notion de langue universelle » par Robert Martin, disponible, on peut le commander, sur le site internet de l'Académie des inscriptions et belles lettres, très familier à tous nos auditeurs. Merci, monsieur.
Merci. Thank you.